un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un accord et du suspense. Londres et Bruxelles sont parvenus à un compromis sur le Brexit tout juste avant le sommet européen. Nous reviendrons sur le contenu du texte avec Angélique Boin. Mais rien ne garantit que le Parlement britannique approuvera cet accord samedi. Analyse dans un instant d'Antoine Gignot à Londres. Le vice-président américain tente de convaincre le président turc de renoncer à son offensive en Syrie. Retour sur ses échanges avec Anand Lower. Nous évoquerons aussi l'impact humanitaire de cette intervention militaire turque avec Valérie Krova. Après Emmanuel Macron, le Premier ministre va au contact des Français pour répondre à leurs questions sur la réforme des retraites. Édouard Philippe rencontre ce soir des parents d'élèves de Lons-le-Saunier dans le Jura. Comme une impression de déjà-vu. L'an dernier déjà, Bruxelles et Londres se félicitaient d'avoir conclu un accord de Brexit. Mais peu après, c'était la douche froide, puisqu'à trois reprises ensuite, les députés britanniques ont rejeté l'accord défendu par Theresa May, alors Première ministre. Le nouvel accord sur la rupture entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été conclu in extremis, juste avant l'ouverture du Conseil européen à Bruxelles. Alors sérieusement échaudés par les péripéties de ces derniers mois, les Européens se montrent un peu plus prudents. Cette fois, ils ne crient pas victoire trop vite. Mais Angélique Boin, ils affichent tout de même leur satisfaction à l'issue de ces négociations marathon.
Ah oui, peu de diplomates ces dernières semaines auraient parié sur un tel dénouement et les sourires sont de rigueur dans les couloirs du Conseil européen. On a lu du soulagement aussi, teinté tout de même de fatigue sur le visage du négociateur en chef Michel Barnier. Personne ne pourra dire que les Européens, restés soudés jusqu'au bout, n'auront pas tout fait pour trouver ce compromis de dernière minute, confie une source européenne. Alors ce n'est certes qu'une étape, vous l'avez dit, il faut rester prudent, ont répété les chefs d'État et de gouvernement en arrivant, mais ils se félicitent, comme le président Macron, du travail accompli.
Ce qui a permis de débloquer les choses, c'est, je crois, la bonne volonté collective. C'est le fait qu'on a gardé nos objectifs politiques, on a trouvé d'autres modalités techniques qui répondent aux blocages qui étaient apparus, en particulier au Parlement britannique. Maintenant, voyons ce que les prochaines heures, les prochains jours nous diront, et on fera tout pour que les choses puissent aboutir.
Donc d'après ce que dit le président Emmanuel Macron, tout le monde a fait des efforts pour éviter le no deal, Angélique.
Ah oui, chacun fait des concessions. Bruxelles a finalement abandonné l'idée de ce filet de sécurité qui aurait pu maintenir l'Irlande du Nord, cette région britannique, dans le giron de l'Union européenne. Elle restera dans un territoire douanier commun avec la Grande-Bretagne, mais ce sont les douaniers britanniques qui, dans les ports et les aéroports, vont faire le tri, par exemple, entre une bouteille d'eau destinée au marché nord-irlandais et l'autre qui doit continuer sa route pour atterrir sur la table d'un citoyen européen de la République d'Irlande. Une eau qui devra être aux normes européennes et qui sera taxée en conséquence. Il y a des garde-fous, explique bien une source diplomatique française. Il y aura des inspections par les Européens et un dispositif en cas de contentieux. Mais il faudra un système de traçabilité tout de même sacrément efficace. Et puis, des concessions ont aussi été faites sur la souplesse accordée aux Britanniques dans la future relation commerciale qui restera néanmoins à inventer entre les deux parties.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a prévenu qu'il n'y aura pas de prolongation au Premier ministre britannique maintenant de convaincre les parlementaires de valider l'accord. Boris Johnson qui a déjà adressé un message aux députés du Royaume-Uni.
Je pense vraiment que cet accord est un très bon accord, à la fois pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni. C'est un résultat raisonnable et équitable qui reflète l'énorme travail effectué des deux côtés. Et j'espère vraiment maintenant que mes collègues, les députés de Westminster, qui vont se rassembler et vont faire aboutir ce Brexit, pour que cet excellent accord soit mené à bien, pour que le Brexit soit adopté sans délai. Et que nous puissions nous concentrer sur les priorités du peuple britannique. Il est temps pour nous de faire ce Brexit et ensemble de travailler pour construire notre partenariat futur qui peut être incroyablement positif pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne.
For the EU. Le Premier ministre britannique Boris Johnson. Séance exceptionnelle donc samedi à la Chambre des communes et le vote est loin d'être acquis, Antoine Gignot. Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste, a appelé ses troupes à rejeter le texte et le parti unioniste nord-irlandais DUP, allié clé du gouvernement à Westminster, a lui aussi fait part de son opposition au texte.
Oui, c'est une question d'arithmétique et ce sera très serré. C'est du 50-50, explique ce soir le député conservateur modéré Stephen Crabb. Pour que Boris Johnson arrive en fait à faire valider l'accord conclu avec Bruxelles au Parlement, il lui faut le soutien de 320 députés minimum. Il ne les trouvera pas facilement. D'abord parce que le parti unioniste irlandais traditionnel soutien du gouvernement appelle effectivement à voter contre. Ils sont 10, ces unionistes. Ils risquent d'entraîner avec eux une partie des conservateurs les plus radicaux, ceux qui estiment que le gouvernement a fait de trop grandes concessions à Bruxelles. Et puis le Premier ministre va devoir se passer aussi des 23 conservateurs rebelles exclus du parti ces dernières semaines parce qu'ils étaient favorables à un report du Brexit. Pour réussir, Boris Johnson va donc devoir trouver du soutien dans les rangs de l'opposition, car même si Jeremy Corbyn, vous l'avez dit, le chef de file des travaillistes, appelle à rejeter le texte, plusieurs élus de gauche pourraient ignorer les consignes. La députée de Stoke-on-Trent dans les Midlands, une circonscription qui a massivement voté pour le Brexit, explique ouvertement qu'elle hésite. C'est sur cette lassitude des Britanniques, l'envie de boucler le dossier que mise maintenant le gouvernement. Les ministres d'ailleurs parlent comme si le vote avait déjà eu lieu. Nous pouvons et nous allons mettre fin à l'incertitude et générer de la croissance, explique ce soir Savid Javid, le ministre de l'Intérieur.
Antoine Gignot en direct de Londres et prochain épisode donc samedi. La Turquie se dit déterminée à poursuivre son offensive dans le nord de la Syrie. Le vice-président américain Mike Pence espère tout de même arracher un cessez-le-feu à Recep Tayyip Erdogan. Il est arrivé dans la capitale turque avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Et à cette heure, les entretiens sont toujours en cours entre la délégation américaine et les officiels turcs à Nandlower.
Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan se sont entretenus pendant plus d'une heure et 1 heure 20 avant d'être rejoints par les autres officiels turcs et américains, dont le chef de la diplomatie Mike Pompeo. C'est beaucoup plus que les 10 minutes de tête-à-tête initialement prévues entre les deux hommes. La rencontre n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Mike Pence et Recep Tayyip Erdogan sont apparus très tendus lors de leur poignée de main devant les caméras, aucun des deux ne faisant l'effort d'esquisser un sourire. À l'évidence, l'américain Mike Pence est arrivé à Ankara avec la mission non pas d'écouter mais de proposer un plan à Tayyip Erdogan pour qu'il cesse son opération, faute de quoi les États-Unis infligeront à la Turquie des sanctions bien plus lourdes que celles décrétées jusqu'ici. Mais Recep Tayyip Erdogan est déterminé à poursuivre son offensive, du moins est-ce le message qu'il envoie à son opinion. La reddition des forces kurdes, leur désarmement et leur départ du nord de la Syrie, c'est ce que réclame le président turc. Et il est d'autant moins enclin à faire des concessions qu'au réveil ce jeudi matin, les Turcs ont pris connaissance d'une lettre surréaliste envoyée le 9 octobre par Donald Trump à leur président. Une lettre dans laquelle il l'appelait à ne pas faire l'idiot en Syrie. Selon certains observateurs, le tollé provoqué par la publication de cette lettre ne laisse d'autre choix à Tayyip Erdogan que de rejeter d'emblée les appels au cessez-le-feu.
Le président syrien dénonce aujourd'hui l'intervention turque qualifiée d'agression flagrante. Bachar al-Assad promet d'y faire face par tous les moyens légitimes. Et Damas accuse Ankara de causer la mort et la destruction dans le nord-est du pays, avec une offensive ayant dévoilé les ambitions expansionnistes de la Turquie. Depuis le début de l'offensive, des dizaines de civils, surtout côté kurde, ont été tués. Et selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, quelques 300 000 personnes ont fui les zones de combat. Dans la ville de Ras el Ain, encerclée par les forces turques, des bombardements ont touché et endommagé un hôpital. Les autorités kurdes réclament un couloir humanitaire pour évacuer les civils et les blessés. Valérie Krova.
Combien reste-t-il de civils à l'intérieur de Ras el Ain, dont la moitié est désormais contrôlée par l'armée turque et ses supplétifs syriens? Une partie de la population a fui l'avancée des troupes d'Ankara, mais il resterait encore de nombreux habitants encerclés dans la ville, affirment les autorités kurdes, qui font état de bombardements systématiques des convois médicaux. D'où l'appel pressant des Kurdes, appel adressé à la coalition internationale, qui fut la partenaire des forces kurdes dans la lutte contre Daesh, mais aussi à la Russie, pour qu'elle fasse pression sur la Turquie, afin qu'elle accepte d'ouvrir un corridor humanitaire qui permettrait de laisser passer les civils et les blessés. Des accusations d'utilisation d'armes chimiques par les forces turques ont par ailleurs, et pour la première fois, été portées par les autorités kurdes. Ces accusations sont étayées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui dit avoir recensé des blessés souffrant de brûlures à l'hôpital de Taltamer, près de Ras el Ain. Un peu impossible de vérifier ces informations de manière indépendante, les ONG présentes dans le nord-est syrien ayant été contraintes de partir.
Et le groupe État islamique affirme aujourd'hui avoir libéré des femmes musulmanes détenues par les forces kurdes. Des milliers de djihadistes et leurs familles sont retenus dans des prisons et camps gérés par les forces kurdes dans le nord de la Syrie. L'ONU qualifie de totalement inacceptable la violence en Afghanistan. Au troisième trimestre de cette année, le nombre de victimes civiles a atteint un niveau sans précédent selon la mission de l'ONU en Afghanistan. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, 1174 civils ont été tués et plus de 3000 blessés, soit une augmentation de 42% par rapport à la même période l'an dernier. La photo fait la une de quasiment toute la presse américaine aujourd'hui. Elle montre un échange houleux hier après-midi à la Maison-Blanche entre le président Trump et la démocrate Nancy Pelosi. La réunion était consacrée à la situation syrienne, mais les choses ont dérapé et chacun accuse l'autre d'avoir complètement craqué. L'instant a été immortalisé par un photographe de la Maison-Blanche et diffusé, bien qu'elle soit dévastatrice pour le président américain Gregory Phillips.
À gauche de la table de travail, Nancy Pelosi est debout, en veste bleue, entourée d'autres élus démocrates. Elle est quasiment la seule femme au milieu d'une vingtaine d'hommes et elle pointe du doigt le président américain. En face, Donald Trump qui semble éructé, plusieurs membres de son cabinet et des conseillers militaires qui visiblement baissent les yeux comme pour laisser passer l'orage. C'est Trump qui a publié cette photo sur son compte Twitter et il écrit « Pelosi a complètement craqué, très triste à voir, c'est une personne très dérangée ». De leur côté, après avoir claqué la porte de la réunion, les démocrates ont expliqué que Donald Trump les avait insultés, traité la présidente de la Chambre des représentants de politiciennes de troisième classe et promis qu'ils se retrouveraient le jour des élections. L'image extrêmement forte illustre en tout cas l'énorme tension qu'il y a en ce moment à Washington. La réunion était consacrée à la Syrie, mais le cliché est aussi le symbole du bras de fer qui se joue en ce moment entre les démocrates et la Maison-Blanche avec cette enquête en impeachment. Nancy Pelosi est bien la première opposante à Donald Trump et la dirigeante démocrate a tout de suite mesuré la force de cette image qu'elle utilise désormais comme bandeau sur son compte Twitter, suivi par 3 millions d'abonnés.
Grégory Phillips à Washington. Alors qu'une grève interprofessionnelle se profile le 5 décembre contre la réforme des retraites, l'exécutif poursuit ses consultations citoyennes pour tenter de faire accepter son projet. 15 jours après Emmanuel Macron à Rodez, c'est au tour d'Édouard Philippe de se plier à l'exercice. Accompagné du nouveau ministre délégué aux retraites, Jean-Paul Delevoye, le chef du gouvernement arrive ce soir à Lons-le-Saunier dans le Jura. Il va rencontrer des parents et grands-parents d'élèves d'école élémentaire. Bonsoir Stéphane Robert.
Oui, bonsoir.
L'objectif, c'est d'expliquer la réforme aux Français, mais aussi de les associer à la réflexion pour qu'ils s'emparent de la problématique.
Oui, l'exercice auquel va se livrer Édouard Philippe fait partie de l'arsenal méthodologique déployé par le pouvoir exécutif pour tenter de déminer un sujet extrêmement sensible et socialement inflammable. Il s'agit pour le Premier ministre ce soir à Lons-le-Saunier, comme pour Emmanuel Macron il y a 15 jours à Rodez, d'essayer de calmer le jeu, d'apaiser les tensions, de montrer qu'il consulte les Français, qu'il est dans la concertation. Ce qu'on veut, explique un conseiller ministériel, c'est installer cette réforme dans l'atmosphère. Autrement dit, sensibiliser la population. Faire en sorte, reprend-il, que les Français s'emparent de la problématique. La population vieillit, on a donc un nombre de retraités qui augmente. Du coup, la question est comment fait-on pour continuer à financer notre système par répartition ? Édouard Philippe va donc exposer ce qui est déjà décidé, la mise en place d'un système universel, le même pour tous, un système par points qu'on accumule et qui doit entrer en vigueur en 2025. Et puis, tout le monde pourra s'exprimer sur ce qui n'est pas encore tranché. Faut-il un âge pivot ? Rester sur une durée de cotisation ? Créer des incitations pour aller au-delà ? Il va s'efforcer d'être à la fois dans l'explication, dans la pédagogie, conclut ce conseiller, mais aussi dans l'écoute de ce que les Français ont à dire. Parce que quand vous décidez tout à la place des gens, vous les inquiétez. Nous allons donc nous employer à les rassurer. Pour ça, le Premier ministre va se retrouver dans les minutes qui viennent devant environ 200 personnes, des parents et des grands-parents. La règle pour participer est d'avoir un lien de parenté avec un enfant de la commune. Et le débat très informel, nous promettons, devrait durer 2 heures environ.
Stéphane Robert, deuxième journée d'Action nationale à EDF. Un salarié sur 4 a fait grève aujourd'hui selon la direction. 30% de l'effectif présent selon les syndicats. Il se mobilise pour la défense du service public de l'électricité et contre le projet Hercule de réorganisation de l'entreprise avec une division en 2 entités. Serge Gianorsi, délégué syndical central FO Énergie et Mines, dénonce un démantèlement dangereux pour les salariés.
Le risque que nous pressentons, c'est à terme une privatisation de certaines filiales. Donc, pour les salariés, une conséquence de perte de statut et d'être sorti totalement du groupe EDF, comme malheureusement nos camarades d'Engie l'ont vécu ces dernières années. Pour le nucléaire et pour les moyens de production, là également, il y a un risque. L'avenir de ces moyens de production serait soumis aux velléités des gouvernements à venir et dépendrait uniquement de décisions politiques. Les risques ne sont pas uniquement pour les salariés EDF. Il y a des risques pour l'entreprise, parce que ça serait la fin de l'entreprise et du groupe tel que nous la connaissons depuis 1946. Les clients ou les usagers, ça se traduirait par une explosion des tarifs de l'électricité.
L'intersyndicale CGT, CGC, CFDT et FO sera reçue le 28 octobre à l'Élysée. Grève nationale chez Michelin pour défendre les emplois sur tous les sites. La direction du groupe assure qu'il n'y aura pas d'autres fermetures d'usines en France dans les 3 à 5 prochaines années, mais les salariés sont devenus méfiants. Le fabricant de pneumatiques veut fermer son usine de La Roche-sur-Yon. 619 salariés sont concernés. Et selon les dernières déclarations de la direction Hakim Kasmi, l'activité pourrait cesser dans quelques mois sur le site vendéen.
Oui Aurélien, pour les salariés de La Roche-sur-Yon, il y a un véritable sentiment de trahison. Car en avançant la fermeture du site, la direction ne respecte pas ses engagements. Le plan Avenir de 70 millions d'euros pour maintenir l'activité, lancé il y a 3 ans, devait s'achever qu'à la fin de l'année prochaine. Autre promesse non tenue, la reconversion du site. Pour compenser la perte d'activité, la direction de Michelin s'était engagée à lui proposer de travailler sur des secteurs d'avenir sur lesquels planche en ce moment l'équipementier, comme par exemple l'hydrogène. Mais ce que n'accepte pas l'intersyndicale, c'est surtout la fermeture de La Roche-sur-Yon au profit des actionnaires, puisque les marges de Michelin ont atteint l'année dernière, et surtout au dernier semestre, 13,2%. Des résultats très importants pour le secteur. Jérôme Lorton, délégué central sud chez Michelin.
Aujourd'hui, Michelin a 7 sites de production poids lourds en Europe. Et ça veut dire que la production qui est effectuée sur site va être délocalisée dans les autres usines du groupe. Ce qui leur permettra de répondre à leur stratégie de massification des sites et de rendre les sites encore plus productifs et compétitifs qu'ils pouvaient l'être jusqu'à présent. On veut massifier le plus possible de façon à être le plus rentable possible.
Une rentabilité qu'espère encore accroître le manufacturier, qui s'est fixé un objectif de 15% de marge l'année prochaine, un chiffre qu'ont déjà atteint ses deux principaux concurrents, Continental et Goodyear. En attendant, l'intersyndicale va lancer demain une consultation pour aller ou pas vers une négociation avec la direction.
Hakim Kasmi, le travail dominical dans les magasins n'est autorisé que dans un cadre bien précis, rappelle le tribunal de grande instance d'Angers. Il vient de condamner le prestataire du géant Casino de la Roseraie qui embauchait des salariés le dimanche après-midi au sein de l'établissement. Le magasin était ouvert tous les dimanches après 13h depuis le 25 août dernier. Cette ouverture était possible grâce à un sous-traitant qui faisait travailler ses propres animatrices. Bonsoir Samuel Monod.
Bonsoir Aurélie.
Le tribunal a donc condamné un contournement de la loi sur le repos dominical.
Un contournement habile de la loi. Pour rappeler les bases, le code du travail permet au supermarché d'ouvrir le dimanche jusqu'à 13h maximum. L'enseigne Géant Casino et surtout son prestataire Éthique Accueil faisaient valoir devant le juge plusieurs arguments pour justifier d'une ouverture après 13h. D'abord, le fait que le repos dominical ne prévalait plus parce que de plus en plus de magasins sont ouverts le dimanche toute la journée. Un argument plus économique que juridique et écarté sine die par le juge. Ensuite, le sous-traitant s'est appuyé sur une dérogation au repos dominical réservé aux espaces de présentation et d'exposition permanente. Oui, mais cette dérogation précise que ce n'est que pour des activités qui excluent toute vente au public. Et dans le cas du Casino d'Angers, il y a bien des opérations de vente puisque c'est un magasin. Argument également retoqué donc. Par ailleurs, Éthique Accueil invoquait les dispositions d'une convention collective qui permet l'ouverture le dimanche après-midi pour des sociétés de services et pour des activités d'accueil et d'événementiel. Encore une fois, argument rejeté par le tribunal car les activités d'événementiel doivent être limitées dans le temps. Or, le contrat passé entre Casino et Éthique Accueil dure 1 an, renouvelable pour une durée indéterminée, et les animatrices du prestataire devaient donc revenir sur le site tous les dimanches. Pour l'instant, Éthique Accueil se refuse à tout commentaire. Si la société ne respecte pas la décision du tribunal, elle devra payer une astreinte de 5000 euros par salarié embauché le dimanche après 13h.
Samuel Monod, le procureur de Nantes a ouvert une enquête sur les fuites policières intervenues lors de l'annonce de la fausse arrestation de Xavier quartier du pont de Ligonnès, recherché après le meurtre de sa femme et de ses 4 enfants en 2011 à Nantes. L'enquête a été confiée à l'IGPN, à l'Inspection Générale de la Police Nationale. Vendredi soir, des sources policières françaises avaient rapporté à plusieurs médias que la police écossaise avait informé la France de l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès à son arrivée à Glasgow, dans un vol en provenance de Paris. Un test ADN a ensuite montré qu'il ne s'agissait pas de la même personne. Demain vendredi, le temps sera le plus souvent très nuageux et pluvieux, avec des averses sur la moitié nord. Entre le sud de Midi-Pyrénées et le Roussillon, ciel chargé, mais les pluies seront rares. Sur la Corse, de belles périodes ensoleillées. Le matin, les températures iront de 9 à 17 degrés. L'après-midi, 14 à 21 du nord au sud, jusqu'à 22 à 24 en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.